Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
10h06 sur RMC, merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne toute la matinée. Je suis bien entourée avec Sarah Pitkowski, David Douillet et Fred Weiss. Le ring des GG dans quelques instants. On va parler des Jeux Olympiques à 2 ans de ceux de Los Angeles. La natation et l'athlétisme sont-elles les deux disciplines qui vous inquiètent le plus pour l'équipe de France? Le dossier des GG, Léon Marchand prend-il un risque à disputer ses championnats d'Europe? Et puis le vestiaire, comment nos GG se sont-ils confrontés à leurs limites? Comment accepter quand on se rend compte qu'on n'est plus au niveau des autres? Et puis sur le buzzer, on fera le bilan des Tours de France pour les Français, sans oublier évidemment les jeux du sport. En fin d'émission, on vous rappelle que tout ce week-end, on vous fait gagner 1 an d'abonnement à Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France femme avec Zwift, pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement Basic Fit, vous envoyez sport, SPORT, au 7 32 16. 2 ans déjà que les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés, et dans 2 ans seulement, les Jeux Olympiques de Los Angeles vont débuter. De quoi faire un petit état des lieux aussi pour les athlètes, en espérant vivre autant d'émotions qu'à Paris.
RMC, le ring des GG.
Mais il y a Vincent, il va passer dedans, il va le faire.
Teddy est placé en air bordure. Kim Il-jung qui essaye de se sortir.
La tête de Tiberi,
allez, il sort un peu côté couloir.
Allez, service qui est de Félix. Et oui, Félix, bravo, pour l'équipe de France. Et donc, génial pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze.
Pauline Ferrand-Prévot qui passe la bosse, qui peut lever les bras, qui serre le poing, qui lève le poing, le sourire aux lèvres. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique.
On est pile à mi-chemin, au milieu de cette Olympiade. Forcément, l'objectif de Los Angeles 2028 est dans toutes les têtes pour les athlètes. Mais alors, cette question, leurs résultats actuellement sont-ils déjà ce qu'il y a de plus important en vue de ces prochains JO? Fred?
Non.
Sarah?
Moi, je vais défendre le oui.
David?
Non, pas du tout.
Et on vous rappelle aussi qu'on vous attend évidemment sur X pour venir vous confronter à nos GG. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fred? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour l'instant, c'est très mitigé.
Oui, j'ai été votée, moi.
C'est vrai?
Oui, on était à 50-50 ce matin.
Et là, il y a 54-46.
54 pour qui?
Pour le non.
Pour qui?
Bah évidemment, pour le raison, en fait. Sarah, s'il te plaît.
Non, mais arrête de
même en trichant, non,
tout ce que tu
même
dis,
en trichant, Sarah, c'est une catastrophe.
C'est
tu
dingue,
es capable
ça.
De tricher même pour ce genre de jeu.
Frédéric, chacun a le droit d'avoir
des arguments.
Pour vous aider, les GG, à répondre aussi à cette question et affiner vos arguments, on va faire l'état des lieux aussi des deux disciplines phares des JO, que sont la natation et l'athlétisme. Et ça tombe bien, parce que les championnats d'Europe des deux disciplines démarrent demain. Julien Richard va suivre la natation en bassin depuis le centre aquatique de Saint-Denis. Salut Julien.
Salut Flora, salut les grandes gueules.
Salut Julien.
Julien, justement, on va mettre de côté évidemment la tête d'affiche de la natation française, Léon Marchand, dont on parlera plus en longueur tout à l'heure. Et je le fais volontairement parce que derrière lui, clairement, c'est un petit peu plus dur pour la natation française.
J'ai envie de te dire oui et non. Alors bien sûr, il prend beaucoup de place sur l'affiche, mais il n'est pas le seul leader des Bleus. Il y a Maxime Grousset, triple champion du monde. Oui, il a raté ses Jeux à Paris, mais il aura 29 ans à Los Angeles. Il sera au sommet pour un sprinter. C'est quand même un nageur, il ne faut pas l'oublier, qui peut viser, pourquoi pas, 4 médailles aux Jeux Olympiques avec le papillon et le crawl. Il faut rajouter son compère de l'INSEP, Johan Hendoy-Brouard, double médaillé de bronze au dernier championnat du monde sur le 100 et 200 mètres d'eau. Ces trois-là composent la base d'un relais quatre-nage très, très performant qui était en bronze aux Jeux à Paris, vice-champion du monde l'été dernier. Et pour le oui, Flora, vous aurez noté que dans ces noms-là, j'ai pas cité de femme.
Mais oui.
Derrière sa capitaine Marie Wattel, vice-championne du monde en 2022, ça commence à dater. La natation française féminine est un peu dans le dur, mais je vais y revenir, il y a un peu d'espoir. Et puis, pour moi, quelque chose d'assez frappant, un peu triste même, quand on connaît le passé de ce relais, il n'y aura pas de 4 fois 100 mètres nage libre homme français à domicile.
Wow.
À Saint-Etienne, il y a un mois, lors des sélections, en l'absence de Maxime Grousset, on s'est aperçu du gouffre qu'il y avait derrière lui. Le 100 mètres nage libre le plus lent depuis 2006, ça, c'est pas très rassurant. Ces championnats d'Europe, ils sont à 2 ans des Jeux, ils doivent servir de revue d'effectifs pour Los Angeles. Sur les 27 sélectionnés, 9 seulement étaient présents à Paris. Cette semaine, vous allez voir nager des jeunes pousses à fort potentiel. Marie-Ambre Molu, 20 ans, alors elle a déjà de l'expérience, mais elle débarque en tête des bilans européens sur 100 mètres d'eau. Elle pourrait franchir un gros cap ici. Puis les récents champions d'Europe juniors, Nathan Muratori, Jeanne Le Chevalier, qui vont découvrir la grande sélection. Un nom revient aussi, vous l'avez peut-être déjà en tête, il s'appelle Sauveur Cristofini, annoncé comme le nouveau phénomène de la natation française. Nageur d'Ajaccio qui s'entraîne à Marseille depuis quelques semaines après avoir éclos avec Philippe Lucas. Il n'a pas encore 17 ans, physique impressionnant, il bat tous les records nationaux des catégories d'âge qui appartenaient à l'époque à des noms comme Yannick Agnel ou encore Léon Marchand.
Et oui, évidemment, que des grands noms de la natation française. Tu restes évidemment avec nous, Julien. On parlera aussi Léon Marchand tout à l'heure, mais en athlétisme, c'est presque encore plus difficile parce qu'il n'y a plus de méga stars françaises. Enfin, si, on a quand même Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Ah. Salut Flora. Salut
à tous. J'ai donné une bonne raison.
Ah oui, c'est bien. Je m'y attendais pas. Ça me fait plaisir. Ah oui.
La tête d'affiche française, si, y en a quand même une. Je suis dure. C'est évidemment Jimmy Gressier.
Ah bah évidemment, parce qu'il est champion du monde du 10 000 mètres depuis les championnats du monde de Tokyo la saison dernière, médaillé de bronze aussi du 5 000. Donc le demi-fond français, on le savait quand même en progression. Là, il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Depuis, il a eu un petit coup de moins bien, évidemment. Il a fait un aller-retour à Boulogne-sur-Mer en changeant d'entraîneur, puis en revenant à son ancien entraîneur. Mais il n'y a pas eu que du noir cette saison. Il a notamment battu le record d'Europe du 5 km route, à 2 secondes d'ailleurs du record du monde. Et donc il arrive encore avec des énormes ambitions ici à Birmingham pour les championnats d'Europe. On l'écoute.
Je veux être double champion d'Europe, c'est l'objectif. J'arrive en bonne forme, les séances se sont très bien passées. Maintenant, j'arrive avec un peu moins de certitude, on va dire, qu'avant les championnats du monde, même si les championnats du monde, c'est un cran au-dessus par rapport aux championnats d'Europe. Mais j'ai fait le choix de ne pas courir en compétition officielle parce que j'avais besoin de passer beaucoup de séances spécifiques à l'entraînement. C'est chose faite. Maintenant, j'ai hâte de plus tourner en rond pour aller chercher, j'espère, les deux médailles d'or que je me suis fixées.
Ah, il va doubler du coup le 5000 et le 10000 dans cet ordre-là qui est un petit peu plus difficile physiquement par rapport à Tokyo où c'était 10000, 5000. Sur le 5000 mètres, il doit faire quelque chose très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Almgren, le Suédois, qui est le meilleur performeur européen de la saison, s'est concentré sur le 10 000 mètres. Et Jakob Ingebrigtsen, qui est la méga star norvégienne, lui n'a pas couru de 2026 non plus à cause d'une blessure, une grosse blessure au tendon d'Achille. Donc il va se découvrir aussi. Gressier doit faire quelque chose sur le 5 000 dès lundi soir, dès demain soir.
Alors si on parle de Jimmy Gressier, on va faire comme Léon Marchand, on va le mettre de côté. Derrière, ça donne quoi pour l'athlétisme français ?
C'est comme d'habitude, il y a beaucoup de promesses. Non mais en fait, ce qui est terrible pour l'athlétisme, c'est qu'on a beaucoup d'athlètes qui ont battu les records de France. Par exemple, on a Anaïs Bourgoin sur le 800 mètres féminin, Gabriel Tual sur le 800 mètres masculin, Gad Guimau sur le 1500 féminin, Yann Chaussinant au lancer du marteau, Lola Sonjouan au lancer du disque. Mais par exemple, Jouan, il a aucune chance au niveau européen ni mondial. Chaussinant, il peut faire une médaille. On a Alice Finot aussi sur le 3000 mètres steeple, Alexis Miellet. 3000 mètres steeple masculin, ces deux-là sont champions d'Europe en titre, comme Gabriel Tual sur le 800. À la perche, on a aussi des chances avec Marie-Julie Bonin chez les filles et Thibaut Collet chez les garçons. Donc, il y a toujours un bon niveau global, ce qui permet à la France quand même d'être pas trop ridicule à la placing table. On est au niveau des Italiens, des Allemands, pas des Anglais évidemment, qui sont toujours un petit peu en avance en athlé. C'est pas le creux générationnel absolu, mais on a plus de médailles assurées. C'est ça qui est un petit peu terrible pour les Français. Il y a pas de continuité, il y a beaucoup de blessures, comme un juste Kouaou Maté qui est un des meilleurs européens sur les haies, sur 110 mètres haies, il pourrait faire une médaille, mais rien de sûr. Après, ce sont les Europes, Flora, donc on va quand même avoir une dizaine de médailles normalement.
Oui, voilà, c'est ça aussi, il faut remettre au niveau, parce qu'on rappelle qu'on a vu qu'une seule médaille à Paris aux Jeux Olympiques avec Sirena Samba-Maiella qui n'est pas là. Aurélien, tu restes aussi avec nous, tout comme Julien et les GG, je vais vous poser évidemment cette question. Globalement, on essaye de savoir si la vérité d'aujourd'hui est celle de demain. C'est en gros la question qu'on pose. Est-ce que les résultats aujourd'hui, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, c'est tout ce qui importe alors qu'on est à 2 ans de la compétition la plus importante pour les athlètes que sont les Jeux Olympiques. Ton avis rapidement, Fred ?
Non.
Très bien.
Ça peut pas être plus rapide.
Si, je peux. David.
Non, c'est pas très important, mais il y a des sports qui sont pas comparables parce que pour se qualifier pour des grandes compétitions, il y a besoin de minima. Et bah, quelquefois les minima sont pas là, même si on bat des records de France, bah, quelquefois ça suffit pas. Donc là, par contre, c'est important d'être dans les clous pour être qualifié pour ces grandes compétitions. Mais globalement, ça sert à rien d'être en forme trop tôt. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le PSG.
Et en revanche, Sarah, ça peut aussi être inquiétant si tu ne l'es pas déjà en forme.
C'est pour ça que moi je prends le oui. Pour certains sports, comme le disait David, fort justement, t'as des sports à chronomètre, donc avec des minima, et puis t'as des sports à classement. Donc forcément,
pour obtenir ta qualification,
les niveaux sont différents. Et puis après, ça dépend quand est-ce que les fédérations nationales et les fédérations internationales mettent en place leurs minima à réaliser. Mais pourquoi je défends le oui ? Parce qu'en fait, par exemple, pour l'athlétisme, il y a un coefficient de 40% sur tes minima et 60% sur ton classement mondial. Donc, j'ai envie de dire, si tu arrives à faire tes minima assez tôt, t'as la tête libre, c'est-à-dire que tu peux commencer une préparation sur la longueur. C'est pour ça que je réponds oui, que les résultats importent, parce que on sait que sur certains sports, qui ont des compétitions avec un championnat d'Europe, un championnat éventuellement, un championnat du monde, un peu d'indoor et les Jeux Olympiques, sur deux ans, t'as peut-être trois grands rendez-vous. Donc c'est pas des rendez-vous toutes les semaines comme d'autres sports collectifs. Donc de pouvoir faire tes minima assez tôt, je pense que dans ta préparation, c'est ultra important. C'est pour ça que je défends ce oui, en fait. Et que la fédération, on est en août 2026, à partir de janvier 2027, c'est parti les minima, hein. Donc cette question, on la pose maintenant.
Déjà, enfin, à partir, Aurélien va nous le confirmer, mais il y avait des minima déjà qui étaient posés lors des championnats de France pour l'athlétisme, hein.
En fait, ça se fait par période.
C'est pas la période, là.
Non, pas du tout. Non, même là, les minima pour Pékin 2027, les mondiaux, c'est pas encore ouvert. Là, c'est par période d'un an, en fait, à chaque fois. Donc, il faudra performer fin 2027, début 2028 pour Los Angeles, évidemment.
Alors, Fred, qui défend le nom.
Déjà, c'est trop tôt, on vient de l'expliquer, parce que les minima, ça ne sert à rien, déjà. Ensuite, ça n'est qu'un instantané d'une forme ponctuel, c'est-à-dire que on peut considérer que deux ans avant on peut être très en forme, mais trop tôt ça ne sert à rien.
Oui, c'est ce que dit David.
Il n'y a aucun intérêt à être en forme avant d'avoir commencé la compétition ou avant de s'approcher de la compétition.
Juste avoir un petit peu de confiance.
Mais deux ans avant, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des performances.
Une Olympiade, tu gagnes pas 10 secondes.
Alors juste, oui, je connais les Olympiades, mais le principe de se dire deux ans avant je suis en forme, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'un vrai athlète sait qu'il peut se blesser, qu'il peut y avoir l'émergence d'autres. Non, c'est juste un instantané qui te permet de savoir où tu en es par rapport à ta préparation. Encore une fois, il y a des sports qui se consacrent aux Jeux Olympiques, quasiment uniquement. Donc c'est hyper intéressant de se dire, je suis dans cette situation, je suis bien, je suis mal, il faut que j'évolue dans ma préparation pour être bien à l'instant T, etc. Moi, j'ai pas entendu parler de Samuel Vessa. Samuel Vessa, c'est quand même quelqu'un que personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Et vient de battre le record des 400 mètres.
Aurélien va peut-être nous parler de lui, du nouveau champion de France du 400 mètres, effectivement, Aurélien.
Oui, alors, je suis désolé, Fred, t'as raison, mais il y a tellement de noms, en fait, on pourrait, au niveau européen, on peut en citer 50.
C'est pas pour te mettre en porte-à-faux, c'est juste pour expliquer qu'il vient de nulle part et personne n'attendait à ce niveau-là. Donc ça peut arriver aussi dans un an et demi, c'est ça que je veux dire.
Il t'appartenait. Il était d'abord au basket à l'université aux États-Unis, en fait. Et puis il avait un double cursus et il s'est concentré sur le 400. Il a battu le record de France de Leslie John, quatrième meilleur performeur européen de l'histoire. Et d'ailleurs, t'as raison de dire ça parce que Jean Galfione, qui est le nouveau directeur de la haute performance des Bleus, en fait, en creux hier, il nous a dit qu'il comptait un peu sur l'émergence magique de jeunes comme ça, parce qu'il y a aussi Isabelle Black chez les filles sur 400 mètres, une discipline qui n'existait pas du tout chez les Français depuis maintenant quasiment 15 ans. Et ça, on espère ça, parce que par exemple sur le sprint, c'est quand même un peu la honte pour la France. Il y a que Jimmy Joseph sur le 200 mètres, on n'a pas d'autres sprinteurs. Jean Galfione a refusé d'utiliser le mot honte, évidemment. Il parlait de méformes, de blessures, etc.
Il n'y a pas de relais non plus.
Non, pour la première fois, il y a pas de relais, il y a pas de 4x100, il y a pas de 4x100 masculin ni féminin, donc c'est assez catastrophique. Et il dit, on sait jamais, comme un Samuel Vessa, ça peut émerger d'ici Los Angeles 2028.
Oui, parce qu'il y a largement le temps pour que ça arrive.
On peut pas faire d'exception une règle. Aujourd'hui, que t'es des sportifs qui tombent comme ça du ciel avec des super chronos, très bien. J'ai envie de dire que c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas ça qui te fait une équipe d'athlétisme française.
Non, effectivement, c'est en fin 2027 que tu feras ton équipe. Tu sauras exactement comment
en fait, tout le monde est. En fait, tu gagnes pas des secondes en 6 mois.
En fait, c'est un sport. Il y a une évolution. Bah justement,
Mais il faut des résultats aujourd'hui.
Pas du tout. Tu as besoin de savoir où tu en es dans ta préparation. Continue à avancer.
Mais bien sûr que si t'installer dans la hiérarchie mondiale de ton sport est indispensable.
Mais pas du tout. C'est complètement ridicule. L'important, c'est d'arriver dans un état de forme l'année
Je vais laisser parler le plus grand comédien de la Terre actuellement, David Douillet. Et lui, alors, il va vous expliquer.
C'est intéressant d'avoir David, parce que là, on se base beaucoup sur la natation, l'athlétisme, qui sont des sports, comme tu le rappelais, Sarah, à chronomètre, à minima. Si on prend l'exemple de ton sport, David, et notamment de Teddy Riner, qui devait revenir à la compétition là, au Pérou, et qui finalement a décalé son retour. 2 ans, c'est très court aussi pour vous dans une Olympiade.
Non, mais là, l'exemple de Teddy, il est à mettre à part. Franchement, c'est tout à fait autre chose. Teddy s'est mis un objectif de fou furieux, c'est d'aller au plus loin en termes de longévité. Et il va devoir gérer, justement, le vieillissement de son corps, la gestion de ses blessures, etc. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est pas d'être fort. Il sait être fort au bon moment, c'est de pas être blessé et emmener la machine physique jusqu'au bout. Et si aujourd'hui il prend la décision de retarder son cycle de compétition, de retarder telle ou telle échéance, c'est parce que précisément il gère ça et il le gère bien et il a raison. Ce serait complètement ridicule. Ouais. Donc c'est pas la même chose. On n'est pas sur une jeune pousse ou un groupe de jeunes pousses qui doivent prouver que non.
En revanche, on est sur une confrontation directe avec un adversaire sur le tatami. Tout le monde se connaît effectivement. Forcément, il y a un côté psychologique et mental qui joue sur les adversaires. Quand on sait qu'on les a battus, c'est de la confrontation directe.
Tout le temps. Et puis nous aussi, on est assujettis à un scoring. On fait partie d'une ranking list. Et si t'es pas bien placé dans ta ranking list, tu peux pas participer à des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques.
Donc il faut s'installer dans une hiérarchie mondiale. Et ça se fait pas du jour au lendemain.
Mais moi j'ai en mémoire, il faut regarder l'histoire. À une époque, l'athlétisme français était dans les choux. Bon, un peu comme aujourd'hui, à part Jimmy qui tire tout le monde vers le haut, et j'espère qu'il le fera de main de maître. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, on a cassé tous les codes et on a mis à la tête de la DTN, de la Direction Technique Nationale de l'athlète, un garçon qui s'appelait Gany Yalouz. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mmh. Voilà. Gany Yalouz était un lutteur, vice-champion olympique. Voilà. Et Gany, il est arrivé là-dedans. Il a vu un système ou des systèmes qui asphyxiaient tout l'athlétisme français. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière et puis d'un seul coup, surtout une bonne intelligence de qui fait quoi, comment, pourquoi, etc. Il a instauré une transversalité, il a cassé les chapelles des uns et des autres, et puis, on a découvert un athlétisme français qui fleurissait avec de fabuleux talents. Donc, pourquoi aujourd'hui l'état des lieux de ce sport est retombé peut-être, j'en sais rien, mais je pose une question, dans ces mauvais travers? Et pourquoi on n'instaurerait pas à nouveau une vague de on remet tout en question pour à nouveau, nos athlètes français, ils sont pas moins bons que les Anglais, que les Italiens, que les Allemands, etc. On a une vraie école de l'athlétisme. Et pourtant, au bout du tuyau, on n'arrive pas à avoir nos meilleurs athlètes. C'est bien qu'il y a un défi.
Après, David, pendant les années 2010, il y avait vraiment... Parce que 2016, t'en parlais, Sarah, c'est le point d'orgue de cette génération, mais qui est né en 2007, 2008, 2009. Les Tango, les Lavilloni, Christophe Lemaitre, Jimmy Vico. Ils n'ont pas émergé au dernier moment.
Exactement, ça met. C'est-à-dire que pour faire des résultats, il faut semer très tôt.
Non, je vais vous mettre d'accord. Très simplement, en 2023, l'équipe de France de basket était catastrophique. On a presque eu honte du mondial qu'ils ont fait. On s'est dit, cette équipe-là, c'est des pieds nickelés, ils ne vont rien faire, ils vont être catastrophiques, ils vont se faire balayer par n'importe qui. Il faut se rappeler comment ça s'est passé. On a pris des routes, on a pris des 30 points. Ça a été vraiment quasiment honteux pour mon sport. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? On fait une médaille olympique. Pourquoi? Parce que justement, après cette défaite...
Ils ont été très mauvais au mondial, t'as pas arrêté de le répéter.
Mais ils ont été très mauvais au mondial, je maintiens. Mais, et c'est pour ça, donc je maintiens ce que je dis, ils ont été mauvais en 2023, ce qui n'est qu'un an avant et pas deux comme on l'est actuellement pour les Jeux Olympiques.
Encore une
un
fois,
an avant,
est-ce
ils ont
que c'est
été
pas différent dans un non, sport.
Non, tu sais pourquoi
Prendre des exceptions et en faire une règle,
c'est pas une exception, c'est juste des athlètes de très haut niveau qui se sont rendus compte, qui ont fait leur bilan, qui se sont dit voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'on doit travailler, voilà ce qu'on doit faire pour gagner, et qui au final en appliquant ça, se sont rendus compte qu'ils étaient capables de gagner.
Oui, mais là,
c'est simplement
tu
le caractère d'un sportif de haut niveau. Mais après, si tout le monde, monde n'a pas ce caractère-là, je l'entends.
Non, mais tu parles d'un sport collectif, peux changer l'équipe, tu peux changer. Enfin, il y a
David Douillet est un individu.
D'avoir des résultats aujourd'hui est une bonne nouvelle. Ne pas en avoir, c'est pas rédhibitoire. C'est ça que ça veut
donc
dire.
Donc ça sert à rien, on est d'accord.
Mais non, c'est pas que ça sert à rien.
Si t'en as, c'est cool, c'est pas grave.
Mais
Sarah, reprends l'exemple de Jimmy Gressier. Regarde,
ah bah oui, t'es
c'est
bien placé,
les Jeux Olympiques. Bah voilà. Mais non, mais tu dis à
l'extrême bon exemple,
secondes, etc., etc. Mais bien sûr.
Mais faire des résultats, aller dans des finales.
Il faut faire des finales,
des grands moments.
Mais Sarah, laisse-moi parler. Il foire ses Jeux Olympiques, il se remet en question, il travaille comme une mule et il est champion du monde.
Un athlète de haut niveau.
Ça peut arriver. Ça peut arriver à beaucoup d'athlètes qui sont là, chez nous, dans ce marasme de l'athlétisme, où les gens, on ne pousse pas assez les gens, on les coache peut-être pas suffisamment et on leur fait pas comprendre que eux aussi, ils peuvent monter sur des podiums.
Mais oui, mais
à partir du moment où on met ça dans la tête, tout change et les secondes, elles arrivent.
S'habituer à être dans des finales, des grands rendez-vous, c'est pouvoir être prêt aux Jeux Olympiques. Je vais juste reprendre ce que tu disais, David. Pendant les Jeux, en athlétisme, on a eu quand même pas mal de déclarations d'athlètes qui se satisfaisaient juste d'être en finale. Oui. Et toi, t'avais mis le doigt dessus. Parce qu'en fait, ils étaient juste contents d'être en finale. Mais pour ça, il faut être en finale au championnat d'Europe, il faut être en finale au championnat du monde.
Et
il faut faire des chronos pour que le jour où tu as la caméra sur les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus universel, ce jour-là, ton chrono, il est rassuré parce que t'en as déjà fait avant et parce que tu n'as pas peur de ce grand rendez-vous parce que tu as été habitué. Je vais prendre un exemple pour le tennis. Généralement, les joueuses qui arrivent en finale d'un grand chelem, qui n'ont jamais fait de finale de grand chelem avant, elles ont du mal à jouer leur meilleur tennis. Il faut s'habituer aux grands rendez-vous. Et les grands rendez-vous, tu t'y habitues pas quand ça arrive. Il faut les construire avant. C'est pour ça que
non,
je défends
peux,
le
tu
oui.
Tu peux avoir des déclics, Sarah.
Mais bien sûr,
il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours des exceptions.
S'il vous plaît.
Il y a Cliff qui nous a appelé, qui est avec nous aussi au 32-16, qui veut participer. Salut Cliff.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Tu arrives au milieu d'un débat enflammé.
Ah oui, un beau débat.
Exactement. Je ne sais pas dans quel camp tu es et ce dont tu voulais nous parler toi ce matin.
Moi je dis pour se préparer pour les JO, déjà il faut que M. Gasson, qui pour moi est très élitiste, vraiment très élitiste, parce que les minima qu'il fait, il a imposé.
Ouais. Là pour les championnats minima... d'Europe, effectivement les minima étaient très élevés.
Les minima avec d'autres pays européens, ça n'a rien à voir. On est vraiment à ce que c'est pour faire une restriction budgétaire où ils cherchent vraiment que les médaillables.
Il nous avait expliqué au micro d'RMC, ils cherchaient effectivement à avoir une densité plus grande avec des athlètes capables d'être en finale et pas juste de venir participer à la compétition.
Mais bon, après, c'est pas donné à la carotte aux plus jeunes. Si on prend, pourquoi on ne devrait pas faire on repère tous les meilleurs espoirs. Par exemple, je prends l'exemple de Joshua. Et Aloïs Abraham, qui a fait quand même 3,35 sur 1500, et ben on le récupère et on le forme pour les JO. Et pas tout seul dans son coin.
D'accord.
Et créer une école de champions.
Donc tu es d'accord effectivement globalement avec Sarah de ce temps nécessaire pour construire aussi.
Ben non, il est absolument d'accord avec nous en disant que justement ça n'a aucun intérêt les résultats là. Ce qui est important, c'est justement d'acquérir de l'expérience et de voir où on en est.
Mais il faut bien un rapport avec les résultats.
Non, c'est exactement ce qui.
Tu vas pas prendre le 8e des championnats de France. Mais tu vas prendre les deux premiers.
Mais tu mets aussi une pièce sur. Les gens qui ont un potentiel, en fait, Sarah. C'est, en fait, les résultats n'ont pas d'importance. C'est l'avenir. C'est avoir cette photographie de l'instant T, de savoir où ils en sont, pour savoir ce qu'ils ont à travailler. En fait, ça n'a aucun rapport avec Sarah.
Mais, messieurs, dames, le problème, c'est que l'athlétisme, c'est un sport, de centimètres et de microsecondes, et au niveau mondial. Encore une fois, on a beaucoup d'athlètes qui battent des records de France. Aloïs Abraham, il a brillé au championnat du monde, U20. C'est pas la question, en fait. On peut pas prendre tout le monde. On a pris 101 athlètes à Munich Munich 2022. On en a pris quasiment 199, je crois, à Rome 2024. On a fait 16 médailles, ce qui était super. On a fait énormément de finales et on s'est planté aux Jeux Olympiques quand même. Donc c'est vrai que pour synthétiser, déjà, les résultats au championnat d'Europe par rapport au niveau mondial, ça veut quasiment strictement rien dire. On verra Pékin 2027, ça voudra dire des choses. Parce qu'en athlée, à part un Samuel Vessa ou autre, on peut pas non plus émerger au tout dernier moment, mais on a essayé de prendre énormément de monde pour justement les former à faire des finales des grandes compétitions. Ça n'a pas marché. Et puis quand on resserre l'équipe, eh ben on n'est pas content non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un problème insondable en athlée sur est-ce qu'il faut ouvrir ou est-ce qu'il faut fermer.
Oui, ça donne quand même un petit peu une idée de ce qui sera dans 2 ans. Donc effectivement, un dernier mot, David, pour conclure sur ce sujet.
Non, mais là je retrouve quand même un peu Sarah, parce que moi j'ai souvenir quand on était junior, ceux qui étaient sélectionnés pour les Champions d'Europe et qui participaient aux Champions d'Europe, quand ils revenaient, même sans être médaillés, je peux dire qu'il y avait une vraie différence d'expérience entre ceux qui les avaient pas fait et ceux qui les faisaient. Voilà. Et ça tu peux pas tergiverser là-dessus.
Oui, mais entre les faire, David, entre les vraiment et performer, c'est pas pareil.
Je sais, mais il faut vraiment parce que quand t'arrives dans le stade, quand t'es à Champions d'Europe, même si tu performes pas, t'es dans le stade, tu vois ce qui se passe, tu prends tes marques, etc.
Et
tu peux même te dire, waouh, l'autre il a performé, il s'entraîne avec moi, ou je le vois s'entraîner, etc., etc. Pourquoi pas moi ? Donc les déclics arrivent dans ces conditions-là. Si ils sont pas là, les déclics ne peuvent pas arriver. Donc il faut vraiment sélectionner large.
Alors merci à Cliff de nous avoir appelé au 32-16. Le sondage n'a pas bougé, le non l'emporte à 54%. Mais t'as ramené David Douillet dans ton camp, Sarah. Finalement,
un
c'est passé.
Un peu,
c'est vrai. J'ai un petit peu gagné.
Il y a une forme de victoire, effectivement. 10h32 sur AMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec le dossier des GG. On va remercier Aurélien Tiersen d'avoir été avec nous ce matin depuis Birmingham.
Ça
on se retrouvera toute la semaine prochaine, Aurélien, pour vivre ces championnats d'Europe d'athlétisme. Julien Richard reste avec nous parce qu'on va parler de Léon Marchand dans quelques instants. Est-ce qu'il prend un risque en participant au championnat d'Europe qui arrive dès demain à Paris? Et puis, bien sûr, le vestiaire à suivre aussi à 11h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Missy. Il est 10h34, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Weiss, David Douillet, Sarah Pitkowski. On est toujours dans la perspective de ces Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et on va ouvrir tout de suite le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Demain démarrent les championnats d'Europe de natation en bassin avec un Léon Marchand sur une jambe, toujours gêné par une blessure à l'adducteur, muscle légèrement sollicité en natation et notamment en brasse, l'une des nages de prédilection du quadruple champion olympique. Julien Richard est toujours avec nous, toujours.
Toujours.
Bien évidemment, il n'a pas bougé. Julien, évidemment, l'info aussi hier, c'est que sa blessure l'a contraint à faire des choix dans ces championnats d'Europe sur les courses sur lesquelles il allait s'aligner.
Eh ben justement, pas de risque pris par Léon Marchand. Il s'est blessé à l'adducteur fin juin à Saint-Etienne sur une série du 200 mètres brasse avec ce mouvement de ciseau avec les jambes spécifiques à la brasse. Je ne vais pas la prendre au dauphin mosellan Fred Weiss, mais c'est un mouvement, vous l'avez tous fait, la grenouille, peut-être pour les autres, qui sollicite fortement donc les adducteurs. Le problème, c'est qu'il a rechuté 3 semaines après en voulant reprendre un peu trop tôt. Et dans un communiqué hier, le médecin de l'équipe de France explique que la cicatrisation est en très grande partie acquise, mais le risque de récidive existe. Alors le triple champion du monde, champion olympique, recordman du monde du 400 mètres 4 nages, doit renoncer à son épreuve fétiche qui devait lancer ses retrouvailles avec le public français demain. Il rêvait d'améliorer son record du monde et ça semblait même tout tracé parce qu'à Saint-Etienne, il y a un mois, juste avant de se blesser, il avait nagé le 5e chrono de l'histoire. La prudence l'emporte sur cette course qui comporte, comme le 200 mètres 4 nages sur lequel il renonce également, donc cette partie de brasse et ce mouvement de jambe qui ne peut donc toujours pas effectué sans risque. On l'avait rencontré il y a une semaine à Vichy et justement il nous parlait de sa petite inquiétude, sa grosse inquiétude même sur ce mouvement là.
Ouais, de reprendre la brasse, j'avais appréhendé grave, ouais. Parce que quand je me suis reblessé, j'ai eu zéro signaux d'alerte. Je me suis reblessé un peu comme à Saint-Etienne, vraiment sur le moment où je fais le fouet, c'est-à-dire où j'envoie vraiment les hanches vers l'arrière et je l'ai pas senti venir quoi. Donc j'ai l'impression que je peux faire une partie 3 quoi, facilement je pense. Donc ça fait un peu peur.
Mais alors du coup, Julien, on va le retrouver sur quelle course, Léon Marchand ?
Alors, pas de 400 mètres 4 nages, pas de 200 mètres 4 nages, pas de 200 mètres brasse, une autre de ces courses en or aux Jeux Olympiques. Hein. Donc Léon Marchand débutera demain par un relais, le 4 x 200 mètres nage libre. Et son programme individuel va se résumer à deux courses. Le 200 mètres papillon, vendredi et samedi. Il est champion olympique du 200 mètres papillon, souvenez-vous. La folle remontée sur Milac. Et le 400 mètres nage libre, qu'il nagera pour la première fois dans une grande compétition. C'est une épreuve, justement, qu'il entend explorer depuis les Jeux de Paris. Et pourquoi pas intégrer dans son programme en vue des Jeux de Los Angeles. Et ça, c'est peut-être le point positif pour Léon Marchand.
Merci beaucoup.
On peut l'écouter.
Ah oui, pardon.
Ouais, ça c'était un peu la lumière, on va dire, de me dire que je vais enfin pouvoir faire le crawl comme je le souhaite. Après, voilà, la préparation n'était pas top, mais je peux me rattacher sur ce truc-là, c'est que le crawl, j'en ai jamais fait à des grosses compétitions. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça me donne vraiment un vrai objectif, quoi. Avec une grosse concurrence, ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ouais, moi je suis content. Je suis content de pouvoir me mesurer au meilleur.
J'ai voulu couper la parole à Léon Marchand. Je suis folle. Ça ne va pas te faire ça. C'est très très mal. Julien, tu restes évidemment avec nous. Les GG, je vous pose du coup cette question avant le début des championnats d'Europe demain. Est-ce que Léon Marchand prend un risque en venant disputer ses Europes sur une jambe ? David ?
Non.
Fred ?
Un petit risque, mais risque quand même.
Sarah ?
Non, j'ai l'impression que tout a été maîtrisé.
Alors effectivement, j'ai envie de t'entendre du coup Fred défendre ce oui face à tout le monde. Il y aura les précisions évidemment de Julien si on a besoin d'y voir plus clair. Il y a évidemment le risque d'aggraver malgré tout cette blessure sur les autres courses.
Oui, bah, évidemment. Alors encore une fois, j'ai dit un petit risque parce que je sais qu'il est quand même très bien, il est très bien entouré. Je sais que il a évidemment un staff médical qui doit être aux petits soins avec lui, etc. Mais je me pose la question de savoir si Léon Marchand aurait fait ce championnat d'Europe de natation s'il n'avait pas été en France. Je me pose la question de savoir s'il aurait fait ses efforts s'il n'avait pas été en France. Je me pose la question de savoir si est-ce que c'est intéressant pour lui de se montrer dans une, alors qu'il a une blessure à la cuisse.
Alors honnêtement, poser des questions,
je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Mes questions appellent des réponses qui vont vous faire comprendre que il y a un petit risque parce que je me dis. À mon avis.
T'es prêt pour la politique, tu m'en déconnes.
Et c'est un spécialiste qui me le dit. Hein.
C'est le
politicien qui. Ok.
Je connais même plus la question.
Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est vraiment de se dire je pense qu'il a fait l'effort principalement pour la France. Je ne comprends pas bien sa blessure, je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais ça semble musculaire. Et à partir du moment où c'est musculaire. C'est compliqué sur la cuisse.
Grade intermédiaire, le pectiné.
Est-ce que dans la vie, il a mal tout le temps? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait mal souvent. Est-ce que ça change des choses dans sa vie?
Tu l'as croisé, toi, Julien, à Vichy,
j'ai
justement
hier matin. Croisé même hier matin. Je suis allé voir l'entraînement parce que c'était un peu. Il y avait la cuisse de Zidane et l'adducteur de Léon Marchand. Regardez. Donc, juste pour voir s'il faisait de la brasse, tout simplement à l'entraînement, c'était avant qu'on ait le communiqué. Et je l'ai vu sortir. Effectivement, j'ai pas trouvé un pas. Alors, je vais pas dire qu'il boite, mais bon, voilà. Il a a priori pas de douleur au repos quand il marche, etc. Mais peut-être quand même en sortant de l'entraînement après un effort, s'il a multiplié les accélérations, notamment en crawl. Peut-être que ça. Il faut qu'il
non, mais là, passe dans mais encore une fois, juste pour terminer.
Super précis. Oui. Pour être super précis, la douleur se déclenche et il s'est blessé sur un mouvement très particulier qui est lié à la brasse, on est d'accord?
On est d'accord, oui. Ouais. Il a pas de
et il ne va pas le faire pendant les championnats d'Europe.
Après, il a dit, Julien, malgré tout, qu'il était gêné aussi sur les ondulations, donc notamment sur les coulées.
Ça, c'était au tout début, ouais. Et c'est ça, ça l'a un peu inquiété. Après, il a vite été rassuré.
D'accord.
La seule inquiétude que j'ai, c'est que ça soit une lésion musculaire. À partir du moment où c'est musculaire et qu'il va donner, à 200%, surtout dans une discipline qu'il connaît moins, qu'il appréhende moins. Nage libre, ça m'inquiète un peu plus, voilà.
Il s'est
moins affronté aux autres.
Il le sollicite pas, donc ça ira.
Je sais pas.
S'il faisait la compète de brasse, là, ça pourrait poser un problème. Il le fait pas, donc on est tranquille. Non,
Sarah. Mais en fait, pourquoi je dis que les risques sont vraiment limités, c'est effectivement le fait d'enlever la brasse. Donc sur les quatre nages et le 200 mètres brasse, en tout cas ces épreuves de prédilection, aujourd'hui tu protèges d'une certaine manière ton adducteur, parce que moi je fais de la brasse.
C'est vrai.
Je ressemble plutôt à une grenouille, mais moi je ne sais faire que de la brasse.
On est dans la même équipe, mais
je nage beaucoup et effectivement il va protéger d'une certaine manière son adducteur, et je pense que s'il a le feu vert, il est en phase de cicatrisation. En tout cas, il était en phase de cicatrisation pendant les championnats de France. Donc s'il a le feu vert des médecins et de son staff, c'est qu'il peut nager sans aggraver.
Comme le dit Fred, évidemment, une fois que t'es dans l'eau.
Et puis si ça va pas demain, il prendra pas le départ du relais et il gardera peut-être vendredi, samedi.
Sarah, si le 400 mètres nage libre, s'il se pète pendant une compétition, il l'aura faite et ça sera trop tard en fait. Et une lésion musculaire, on sait combien ça peut être compliqué. Et je me répète, la question essentielle, aurait-il fait ces championnats d'Europe s'il n'avait pas été en France?
Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il répond parce que c'est en France.
Pour toi là-dessus, et Julien va nous donner aussi une précision. C'est que, évidemment, c'est en France et c'est des championnats d'Europe qu'il n'a encore jamais disputés. Il faut aussi le rappeler, Julien.
Exactement, il n'a pas cette ligne à son palmarès. Il n'est pas champion d'Europe, Léon Marchand. Et Fred, je te rassure, si tu veux, tu écoutes l'Intégral Sport cet après-midi. La question, on va lui poser tout à l'heure à 12h15, Léon Marchand. Il sera en interview ici au Centre Aquatique Olympique. Il est promis, je te ferai écouter sa réponse. Mais c'est parce que c'était effectivement une bonne question. Est-ce que si ça n'avait pas été en France,
il aurait participé. Julien, c'est effectivement, si ça s'aggrave, la prochaine compétition, c'est quoi? C'est éventuellement les mondiaux petit bassin indoor à Pékin en fin d'année, et encore, va-t-il les faire? Est-ce que c'est programme?
Je pense qu'il va les faire. On n'a pas encore tout le programme. Il y a des étapes de Coupe du Monde en petit bassin. Il y a ces championnats du monde en petit bassin qu'il avait zappé l'an dernier. Juste après les Jeux Olympiques, parce qu'il était épuisé alors qu'il voulait les faire. Je pense qu'il a vraiment envie de les faire. Hein.
D'accord.
De nager ce petit bassin qui l'intéresse pas mal. Après, la grosse échéance, c'est juillet prochain, les championnats du monde à Budapest, qui seront donc la dernière grosse compétition avant les Jeux Olympiques de Los Angeles.
Oui, donc limité quand même au maximum de...
Moi, j'ai un conseil.
Ouais, vas-y, David.
Non, mais pour soigner un adducteur, on parle de souplesse de hanche, de bassin, de périnée, de machin, de truc, etc., etc. Il faut qu'il fasse un stage au Japon, dans une école de sumotori.
Bien sûr. Je le vois bien là-bas, Léon Marchand.
Je pense que ça va.
Ah bah là, je te dis que l'écart facial, le truc, le machin, il va régler ça en 6-4-2. Il va pouvoir retourner faire la grenouille dans le bassin.
Après, il va revenir avec mon physique. Je suis pas sûr qu'il avance aussi vite.
Au-delà, les GG.
Mais tu te minimises, Fred. Arrête de te minimiser.
Ah bah non, je te minimise pas.
T'es une torpille. T'es une torpille dans l'eau.
J'étais un dauphin. J'étais un dauphin.
Julien, viens. Vas-y, on t'écoute.
Au-delà du risque physique, peut-être, c'est le risque de se faire battre.
Bien sûr.
400 mètres nage qu'il va disputer dimanche pour la première fois dans une grande compétition, sachant qu'en Europe il y a quelques-uns des meilleurs nageurs de cette épreuve-là. Donc c'est peut-être là presque plus le risque, c'est de partir sur quelque chose où non seulement il n'est pas forcément à 100% physiquement, dans sa préparation aussi qui a du coup été perturbée, et il s'aligne sur un truc nouveau.
Mais pour Fred, monde, c'est pas grave de pas avoir des résultats à 2 ans des Jeux, c'est pas grave.
Non, c'est plus grave de se blesser, oui, ça oui.
Ça, c'est sûr que s'il se blesse maintenant, le timing serait évidemment très mauvais. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On te retrouve toute la semaine dès demain. Je serai d'ailleurs avec toi dans cette piscine. Enfin, pas dans la piscine, mais on sera autour de la piscine.
Tu vas faire la grenouille?
Je vais essayer de faire
natation
quelques...
Natation artistique, apparemment.
Non, ça y est, c'est terminé.
C'est vous qui allez relancer le truc.
C'est vrai, on va relancer ça en petit duo mixte avec Julien. Ça va être parfait. 18h, 20h, tous les jours, la semaine prochaine, l'Intégral Sport avec évidemment les championnats d'Europe de natation à suivre sur place, et puis les championnats d'Europe aussi d'athlétisme qu'on suivra depuis Birmingham avec Aurélien Tiercin. 10h45, une courte pause et puis on revient juste après pour un j'y crois pas concernant le Tour de France femme. N'a-t-il pas plus d'intérêt que le Tour de France homme finalement? C'est la question qu'on va se poser. Puis bien sûr, le vestiaire arrive juste derrière à 11h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 10h47, vous êtes bien sur RMC dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne avec Fred Veil, Sarah Pitkowski et David Douillet jusqu'à midi. Aujourd'hui s'achève le Tour de France femme, l'occasion de se poser une petite question. Dénouement du Tour de France avec la 9e étape et dernière à Nice. Un suspense total pour le coup autour de la vainqueur finale.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
Ça y est, elle va franchir la ligne d'arrivée. Kasia Niewiadoma qui lève les bras au ciel. Demi Vollering franchit cette ligne d'arrivée. 1 minute 17, je pense, de retard sur Kasia Niewiadoma. Et Elisa Longoborghini, la coureuse du AE, qui passe cette ligne d'arrivée à l'instant. Demi Vollering franchit cette ligne d'arrivée. Elisa Longoborghini, la coureuse du AE, qui passe cette ligne d'arrivée à l'instant. Quatrième place pour Marlène Reusser, 5e place pour Paula Blasi, 6e place pour Niedermayer, la maillot blanc. Elle en remet une, elle en remet une, elle accélère Demi Vollering, elle en a remis une Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma qui craque dans les derniers pourcentages à 5,5 km de l'arrivée, 100 mètres à parcourir avant la ligne d'arrivée. Demi Vollering, vainqueur de cette 8e étape du Tour de France, et Demi Vollering qui frappe un très très gros coup.
Trois femmes se tiennent en 1 minute 12, 8 secondes d'écart seulement entre la maillot jaune d'Emmy Vollering et sa dauphine Kezia Niewiadoma. Maria Azé, qui était au commentaire, qui le sera évidemment aujourd'hui, est avec nous dès ce matin. Salut Maria!
Salut Flora, salut tout le monde.
Salut Maria.
Décidément, ces femmes nous auront tenues en haleine jusqu'à la dernière étape où va se jouer, comme symbole, comme accomplissement total de ce tour, la victoire finale.
Oui, c'était un peu deux salles, deux ambiances hier à l'arrivée à Nice. Alors d'un côté, on avait Demi Vollering qui était ravie d'avoir récupéré le maillot jaune après un gros coup tactique en fin de course. La Néerlandaise se projetait déjà sur l'étape d'aujourd'hui qui promet d'être épique puisqu'elle n'a que 8 secondes d'avance au classement général sur Niewiadoma. On écoute Demi Vollering.
Je pense que Kezia va tout donner, et moi aussi, parce que je veux vraiment garder le maillot jaune. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Maintenant, il va falloir survivre une journée de plus. C'est un circuit très difficile, je pense que pour tout le monde ça a été assez dur. Mais je suis en grande forme ici, Kezia aussi. C'est juste un combat contre tout. On doit rester concentré.
De l'autre, la colère de Kezia Niewiadoma, deuxième au classement général. Elle estime que Célia Géry, la coéquipière de Vollering, l'a poussée contre une barrière dans le final au moment où Demi Vollering l'a attaquée. Elle était très très en colère à l'arrivée, Kezia Niewiadoma.
Je suis très énervée parce que Célia Géry m'a bloquée volontairement dans la dernière ascension. J'ai dû arrêter de pédaler. Si elles veulent batailler, elles doivent le faire avec fair play et pas me coincer dans les barrières. C'est tellement enfantin. J'ai perdu tout le respect que j'avais pour elles.
Une tension déjà qui promet un énorme duel cet après-midi à Nice entre les deux favoris, je le disais, qui n'ont que 8 secondes d'écart au classement général. Un duel qui, bien sûr, fait très plaisir à la patronne du Tour de Semrousse, habituée à commenter le Tour de France chez les garçons où Tadej Pogacar écrase tout. Là, chez les femmes, il y a beaucoup de suspense et ça, ça plaît à Marion Rousse.
C'est vrai que sur le Tour, je le commande pour France Télévisions et quand Tadej Pogacar est au départ, bah, bien souvent, tu commentes la deuxième place parce qu'il est tellement au-dessus du lot. Et c'est vrai que force est de constater que sur le Tour de France femme avec Zwift, on a changé de maillot jaune finalement pratiquement tous les deux jours avec une vainqueur d'étape pratiquement différente à chaque fois. On voit que le cyclisme féminin est au début en fait de son évolution et qu'il grandit très très vite et en fait ça va de plus en plus vite. Le niveau est de plus en plus homogène parce que bah ça s'est professionnalisé tout simplement. Ça fait qu'on a des courses qui sont hyper intéressantes à suivre.
Taille pour excès dès le début de cette dernière 9e étape du Tour de France femme de 99 km avec 4 ascensions du Col d'Aise.
Merci beaucoup Maria, on suivra tout ça évidemment dans l'intégral Tour des 17h avec toi Pierre Thévenet et Johan Bredov ainsi que Camille Failly, notre consultante. Alors de façon un peu provocante les GG, je l'avoue, je vous demande
pour
ce
changer.
Matin
c'est vrai que c'est pas du tout ton style.
Non, pas du tout. En plus, tu sais que c'est pas mon genre. Ce Tour de France femme n'est pas plus intéressant finalement que le Tour de France homme que nous avons vécu aussi sur RMC et remporté, je vous le rappelle, par Tadej Pogacar avec 6 minutes 26 sur son dauphin Remco Evenepoel. Sarah.
Pardon, est-ce que tu peux reposer la question? Parce que là, tu viens de faire une interro négative et je suis perdue.
Très bien.
C'est alors, la spécialité de Florent.
Et là, je ne sais plus quoi te dire. Parce que j'ai
est-ce que le Tour de France femme est plus intéressant que le Tour de France homme?
Non, n'allons pas trop vite en besogne.
David.
Voilà ma réponse.
Oui, non, malgré tout, avec un scénario de dingue, quoi.
Oui et non, très bien. Fred.
Non, oui, enfin, non, non, non.
Bah, non, d'accord. Voilà.
Oui, allons vite en besogne.
Ah, tu veux défendre le Tour
je
de France.
Je veux défendre le
Tour. Alors vas-y, ça m'intéresse.
Fred n'est que dans la contradiction.
Non.
En fait, c'est
super simple. Je me suis extrait de mon corps pour juger, parce que vous savez l'amour que je porte à Pogacar, donc c'est extrêmement difficile pour moi de dire autre chose. Donc je me suis extrait
après,
et je me suis placé.
L'un n'empêche pas l'autre.
Je me suis placé dans la position de quelqu'un qui regarde le Tour de France sans avoir l'amour que j'ai pour Pogacar. Et je me suis dit, le Tour de France est plus court, donc. Le Tour de France femme est plus court. Donc, c'est moins dilué dans le spectacle. J'ai l'impression que parfois, sur le Tour de France homme, encore une fois, novice du Tour de France, il y a des étapes qui m'ennuient un petit peu, qui m'amusent un petit peu moins. Là, on est que sur 9 jours. Donc à partir de là, pour moi, effectivement, il y a plus d'intérêt parce que je me lasse moins. Il y a moins d'étapes qui ne servent à rien, entre guillemets. Et ensuite, on est en train de voir ce qui est en train de se passer sur la fin. Ça joue à 8 secondes. La dernière étape est une vraie étape où on ne connaîtra pas vraiment la gagnante jusqu'à la fin. Et donc ça, forcément, ça me pousse à regarder. Et ensuite, il y a un différent entre les deux premières, qui s'entendent moyennement. On commence à dire qu'on pousse sur les...
Il y a des choses à raconter.
Il y a un vrai storytelling, il y a un vrai... on me fait des coups un petit peu pour que je puisse pas passer, etc. Moi, j'aime bien. C'est amour, gloire et beauté. Je suis fan de ce genre de truc
et c'est réducteur.
Ah non, mais c'est pas parce que c'est
amour, gloire et beauté.
Mais oui, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime, c'est que il y a du spectacle.
On remplit tous les critères du storytelling intéressant.
Et finalement, il y a un intérêt sportif qui jusqu'au bout sera intéressant. Ben moi, je suis devenu fan. Je suis désolé, encore une fois. Je mets de côté l'amour que j'ai pour Pogacar. J'ai trouvé plus intéressant.
Force est de constater, effectivement, David, que le suspense et l'intérêt de la course cette année a été quand même plus du côté des femmes que des hommes.
Je suis d'accord, mais c'est assez malhonnête parce que le suspense il existe aussi ailleurs.
Enfin, ça dépend où tu mets le curseur.
Pour ce qui est des hommes, par exemple.
Il a été très vite tué le suspense sur le Tour de France homme quand même.
Oui, hein.
Dès la première ascension, il a mis 2 minutes à tout le monde.
Mais je me suis attaché au suspense entre, par exemple, Sexas et Del Toro, par
exemple.
Exactement. Tu vois, avec le meilleur jeune,
avec le meilleur. L'intérêt d'une course, c'est pas quand même savoir qui va gagner à l'arrivée.
Oui,
quoi.
D'accord, mais l'intérêt d'une course aussi, c'est de savoir qui va peut-être pouvoir gagner dans l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vois,
parce que c'est un Français aussi.
Oui,
j'ai une boule de cristal.
Parce que c'est un Français, parce qu'on parle de Sexas, mais on aurait pu parler de Lenny Martinez, etc. Il n'y a pas encore cette richesse dans le cyclisme de nos Françaises. Voilà. Il y a une Fernand Prévost et puis basta. Tu peux m'en citer d'autres ? Là, Fred, je t'écoute.
Oui, Maëva Skibon, par exemple. Maëva Skibon, qui a 2 doigts de gagner l'étape. Hein. Je connais pas son classement, mais en fait, il y a une explication. C'est une coéquipière, en fait.
Ça me gêne de faire
cette comparaison parce que c'est un peu absurde.
On parlait vraiment juste de l'intérêt à regarder.
Oui, l'intérêt. Bon, c'est vrai que l'intérêt, c'est plus excitant en termes de compétitivité. Là, maintenant. Parce que les filles sont à 8 secondes, etc., etc. C'est excitant, etc., etc. Mais je suis désolé. La dureté de l'épreuve.
Ça ne remplacera pas Tour de France. Oh,
mais c'est monstrueux, tu vois, c'est un truc de forçat. Et puis force est de constater, même si tu parles de l'écrasante dominance de Pogacar, il vient de gagner son 5e tour. Ils sont pas 50 000 à avoir gagné 5 tours, c'est monstrueux.
Non, c'est sûr.
Donc c'est passionnant. Regarde les chiffres qui ont été faits. Je me suis penché là-dessus juste pour regarder sur France Télé. Ouais. Ça a explosé les compteurs. Et avec un Pogacar qui dominait, qui écrasait le tour, ça a quand même explosé les compteurs.
Parce que ça reste effectivement le Tour de France, voilà. Sarah.
Oui, voilà. C'est pour ça que je dis, n'allons pas trop vite en besogne. Le Tour de France féminin est revenu dans ce format-là depuis 6 ans. Et comme le disait David, ça dépend où tu mets le curseur. Parce que, en fait, l'intérêt pour le Tour de France en France, c'est de suivre des Français. Donc c'est vrai que sur ce Tour de France masculin, eh bien on a suivi Paul Sexas, savoir où il en était, quel potentiel il pourrait avoir, cette lutte éventuellement qui a été pendant un moment sur le maillot blanc. On a besoin aussi de victoires d'étape françaises. D'ailleurs, c'est la prochaine question que tu vas nous poser. Donc ça aussi, et l'engouement populaire. L'engouement populaire pour l'instant sur les bords des routes et en termes d'audience, il est à la faveur du Tour de France masculin. C'est 45 millions de téléspectateurs qui ont regardé au moins 1 minute du Tour de France masculin. C'est 25 millions pour le Tour de France féminin.
Donc, mais
le
Tour de France, c'est un facteur de...
Non, je te dis, ça dépend où tu mets le curseur. Mais en revanche, le Tour de France féminin a pris 40% d'audience supplémentaire entre 2025 et 2026. Il est sur une pente ascendante. Le coup de boost de l'année dernière de Pauline Ferrand-Prévot a fait un bien fantastique. Couplé à cette incertitude, aujourd'hui, ça en fait un événement féminin à part entière qu'on a envie de regarder. Mais je pense qu'on n'est pas encore dans la comparaison.
Elle part de loin, effectivement. maintenant avec dans le Tour de France homme qui jouit une popularité quoi qu'il en soit.
Tu as beaucoup de chance, on n'a pas le temps, je t'aurais répondu.
10h58, on va remercier Maria Zé d'avoir été avec nous, qu'on retrouvera évidemment toute la journée sur RMC dès 17h pour l'intégral Tour avec toute l'équipe. On reparlera du Tour de France pour faire le bilan des Français notamment tout à l'heure à 11h30. Ce sera sur le buzzer. 10h58, restez bien avec nous sur RMC. Les grandes gueules du sport arrivent tout de suite avec le vestiaire.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.